Chers amis, bonjour. Avec un petit délai de retard dû à des ennuis techniques. Heureusement que Saint-Paul ne vivait pas à l'heure de l'informatique. Ceci dit, nous reprenons notre parcours. Vous vous souvenez qu'après une introduction générale, dans laquelle on avait situé un peu l'activité rédactionnelle de Paul dans le cadre de ses voyages, des voyages qui ont lieu entre l'an 45, sans doute, environ, jusqu'à la fin de sa vie, son séjour romain, qu'il a terminé en 64 ou 67. C'est dans cette période-là, dans la période de ses voyages, qu'il rédige ses lettres, les premières datant de 51 environ, selon l'opinion la plus répandue, à savoir première, deuxième aux Thessaloniciens, dans le cadre du deuxième voyage, écrite de Corinthe, et puis le groupe des grandes lettres, écrites entre 55 et printemps 58, les grandes lettres, c'est-à-dire Romains, les deux lettres aux Corinthiens, Galates, Philippiens. Puis il y a le groupe des lettres dites de captivité, essentiellement Éphésiens et Colossiens. On y joint parfois Philippiens pour certains aspects qu'on va voir, et le billet à Philémon. Et puis les lettres dites pastorales, c'est-à-dire adressées nommément à des personnes, en l'occurrence Tite et Timothée. Alors, dans cet ensemble de lettres, nous avions eu le temps de voir un peu plus en détail la première aux Thessaloniciens, puis la deuxième. Première aux Thessaloniciens, vous en souvenez, sous le signe de l'action de grâce, Paul se réjouissant de recevoir de bonnes nouvelles de la communauté thessalonique, dont il s'inquiétait. Donc, action de grâce, et puis une partie exhortative, et puis la deuxième aux Thessaloniciens, de tonalité plus sévère, plus dramatique, plus tendue, pourrait-on dire, parce qu'on sent bien que la communauté risque d'être menacée par des désordres de l'ordre de la doctrine ou des mœurs. Mais dans l'une et l'autre lettre aux Thessaloniciens, un point d'attention, c'est la question de la venue du jour du Seigneur. Et déjà, ce qui c'est, un petit schéma de présentation de la résurrection des morts dans la première aux Thessaloniciens, qui va être amplifiée, reprise, développée dans la première aux Corinthiens. Alors après ces deux premières lettres, on avait commencé dans les grandes épîtres par les deux lettres aux Corinthiens. La première lettre se présente comme traitant de questions variées, des situations difficiles qui se rencontrent dans la communauté et qui manifestent un risque de désunion dans la communauté. Désunion parce qu'on prend parti, parce qu'on ne vit pas dans une concorde suffisante, le repas du Seigneur, etc. Mais l'ensemble de ces questions concrètes étaient traitées entre deux moments plus doctrinaux, plus spirituels. Un grand développement, les quatre premiers chapitres de la lettre sur le mystère de la croix du Christ, parce que, précisément, c'est dans la faiblesse et non pas dans la puissance mondaine que Dieu se manifeste. Donc le mystère de la croix du Christ, en son apparente faiblesse et folie. Et puis au chapitre 15, le pendant, si je puis dire, à savoir le mystère de la résurrection des morts. Le fait de la résurrection, nous ressusciterons comme participants à la résurrection du Christ premier-né d'entre les morts. Et puis la question de la modalité, oui, mais avec quel corps? Et là, Paul fait comprendre la disproportion qu'il y aura entre nos corps terrestres et ce qu'il appelle les corps glorieux. Voilà ce que nous avions vu, souligné de la première lettre aux Corinthiens. Puis nous avions abordé la fois passée la deuxième lettre aux Corinthiens, dont nous avons terminé un peu le parcours et peut-être déjà esquissé quelque chose de la lettre aux Philippiens. Vous vous souvenez que la deuxième aux Corinthiens n'est pas retenue souvent dans les lettres déterminantes par un certain nombre d'auteurs, pourtant elle est classée dans les grandes épîtres, elle est dans le canon du Nouveau Testament, et de fait je crois qu'elle est quand même fort intéressante, et d'ailleurs a été commentée par de grands auteurs, fort intéressante du point de vue du ministère apostolique. Une réflexion qui s'inscrit à l'intérieur des rapports à ce moment-là, plus difficile, de Paul avec les Corinthiens. Et c'est en réfléchissant à la nature de ces rapports, comment reconstruire un peu ce qui a été mis à mal, en en admonestant le fauteur de troubles, en reconstituant un peu l'unité de la communauté, eh bien c'est à l'occasion de sa réflexion sur ses rapports avec la communauté que Paul plus largement réfléchit la nature du ministère apostolique en ses tribulations. Et nous souvenons que, comme vous le rappelez, la première aux Corinthiens a eu un beau développement sur la croix du Christ, la faiblesse. Eh bien, la deuxième aux Corinthiens va manifester comment elle s'inscrit précisément dans le ministère apostolique. Alors, nous avions parcouru à l'ancienne des feuilles que je vous avais données une proposition un peu de plan où il apparaissait qu'il y avait une première partie, si je reprends rapidement la page 27 que vous aviez reçue, une première partie qui est une partie dite apologétique, c'est-à-dire Paul défend son ministère et en rappelant les étapes variées de ses rapports avec les Thessaloniciens, avec des projets de visite intermédiaire, telle ou telle lettre intermédiaire que l'on n'aurait plus. Intermédiaire, j'entends, entre la première aux Thessaloniciens et la deuxième. Et donc une partie historique dans un esprit apologétique. Et puis, il y a une partie pratique au milieu, c'est la question de la collecte en faveur de Jérusalem, qui occupe de manière précise deux chapitres, les chapitres 8 et 9. Et puis, dans une troisième partie de la lettre, c'est le chapitre 10 jusqu'à 13, verset 10, une partie que Hostie intitule comme polémique, c'est-à-dire apologétique, mais avec un ton plus rude vis-à-vis des détracteurs de l'apôtre, au point qu'il est obligé de faire lui-même sa propre défense pour faire valoir comment son ministère s'inspire de la vérité et non pas d'intentions mensongères ou détournées, un peu cupides, comme certains seraient prêts à l'en accuser. Ça, c'était pour esquisser un peu le contenu de la lettre. Nous avions vu l'un ou l'autre exemple du style relativement passionné de Paul à certains endroits dans cette lettre. Et puis nous avions vu, un peu plus en détail, nous avions lu ensemble la bénédiction initiale, puisque c'est une des caractéristiques de cette lettre, qu'après l'adresse, ce n'est pas d'emblée une action de grâce que l'on a, mais une bénédiction, dont vous aviez le texte sur la page numéro 32 de vos feuilles. Nous avions parcouru cette bénédiction, et, qui va des versets 3 à 7. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous souvenez que la bénédiction se tournait vers Dieu d'abord, Dieu le Père, pour le réconfort reçu de lui. Et le réconfort reçu du Père, eh bien, advenait aux apôtres, mais pour qu'eux-mêmes soient capables de réconforter à leur tour d'autres personnes, ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, le réconfort qui descend du Père, qui vient aux apôtres de l'Évangile pour réconforter toute personne qui est affligée, et c'était le terme des afflictions non pas ordinaires, si je puis dire, mais des afflictions liées justement à la proclamation de la foi, l'annonce de l'Évangile. Et puis en un second temps, la bénédiction avait un accent plus christologique. J'avais dit la première partie plus théologique au sens où Dieu, Othéos en grec, chez Paul, désigne généralement Dieu le Père. Et maintenant, on passe à la nomination de Christ. De même qu'abondent les souffrances du Christ, ainsi par le Christ abonde aussi pour nous le réconfort. Donc, celui qui nous vaut ce réconfort qui vient du Père, aux évangélisateurs et puis à tous les croyants, eh bien, c'est le Christ lui-même. Et Paul insistait à la fin de cette bénédiction sur l'association, la communion, littéralement, aux souffrances du Christ pour avoir part aussi au réconfort qu'il nous donne. Telle était, dans les grandes lignes, la belle bénédiction que nous avions lue. Alors, je vous propose de prendre maintenant votre page 33, que j'avais donnée la fois passée, qui est un extrait du texte, de la lettre, au chapitre 2 et 3. L'extrait qui démarre au chapitre 2, verset 12 de la lettre. Nous allons le parcourir et je vais quelque peu le commenter. Je lis. Donc, 2e aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Étant venu à Troas pour l'évangile du Christ, et bien qu'une porte me fût ouverte dans le Seigneur, je n'eus pas l'esprit en repos parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Je pris donc congé d'eux et partis pour la Macédoine, donc la partie nord de la Grèce. Grâce soit à Dieu qui nous amène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes la bonne odeur du Christ pour Dieu, parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et pour cela, qui est capable? Nous ne sommes pas en effet comme la plupart qui brocantent la parole de Dieu. Mais c'est en toute pureté, mais c'est de la part de Dieu que devant Dieu, nous parlons en Christ. Je commence par commenter brièvement ces versets quand à un certain nombre de termes, de thèmes qui sont annoncés de manière brève et qui vont jouer dans la suite du texte que nous allons lire. Dieu qui nous amène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous. Et c'est le verbe de l'épiphanie qui monte, qui manifeste. Et c'est un terme important qu'on va retrouver, vous avez sous les yeux le texte, au chapitre 3, le verset 3, « Vous êtes manifestement », et c'est un adverbe créé sur le même adjectif, « Vous êtes manifestement une lettre du Christ confiée à nos soins. » Ou bien au verset 11, « Car si ce qui devait être aboli s'est manifesté dans la gloire », pour le moment je repère les occurrences, on verra quel sens elles ont dans le contexte, « s'est manifesté dans la gloire, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux ?» Et puis au chapitre 4 encore, ce terme revient au verset 2. Nous avons répudié les secrets de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce, ne falsifiant pas la parole de Dieu, au contraire, par la manifestation de la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu, etc. Puis encore au verset 10 de ce même chapitre 4. Portant partout en notre corps la mise à mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Donc vous voyez l'importance de cette notion de manifestation, de venir à la pleine lumière, à la pleine clarté. Un deuxième terme qui est important dans les versets qu'on vient de lire, c'est le terme de la connaissance, au même verset 14. Qu'on va retrouver, par exemple, au chapitre 4. Le Dieu qui a dit que des ténèbres brille la lumière est celui qui a brillé dans nos cœurs pour que les illumine la connaissance de la gloire de Dieu. Avoir accès à une compréhension, à une connaissance de cette vérité qui se manifeste, cette vérité du Christ. Autre terme important, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, parmi ceux qui se sauvent comme parmi ceux qui se perdent. C'est une manière de désigner ceux qui loupent, si je puis dire, l'occasion qui leur est offerte de conversion et de salut. Une expression qui va revenir au chapitre 4, au verset 3, que si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules dont le Dieu du monde a aveuglé les pensées, etc. Donc, un usage assez fort du verbe « se perdre » tel qu'on le trouve par exemple à la fin du premier psaume. « Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des impies va se perdant. » Voilà. Donc, c'est une notion importante que pour faire mesurer le risque qu'il y a à ne pas répondre à l'appel au salut du Seigneur. Et l'enjeu est aussi énoncé en termes de vie ou de mort. Ce n'est pas peu de choses au verset 16. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et la mort, il en sera question au chapitre 4, au au verset, chapitre 3, au verset 7. Si le service de la mort, gravé en lettres sur des pierres, Paul vient de dire, on verra cette expression, la lettre laissée elle-même, la lettre tue. Il faut l'esprit pour vivifier. Voilà que ce binôme, vie, mort, s'est trouvé à ce point glorieux, etc. Et de même la notion de vie, ici, en contraste, qui va être prise, mais de l'esprit, l'autre ministère, car la lettre tue, c'est l'esprit qui fait vivre, comme Paul le dit et le souligne, l'esprit comme vivifiant. Autre terme important, l'exclamation, au verset 16, toujours, pour cela qui est capable, qui a la capacité. Et on sent que ce n'est pas une capacité simplement à hauteur humaine, c'est une capacité que Dieu peut donner. Par exemple, quand on le relie, ce terme, au chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quelque chose comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Capacité qui vient de Dieu. Enfin, nous ne sommes pas, en effet, verset 17, comme la plupart qui brocantent la parole de Dieu. Il s'agit de ne pas léser, de ne pas falsifier la parole de Dieu, comme il le redira, on l'a lu au chapitre 4, au verset 2, « Nous avons répudié les secrets de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu, qui a droit à être répercutée, annoncée en toute vérité. » Voilà quelques termes, manifestation, connaissance, le risque de se perdre, la mort opposée à la vie, la capacité qui vient de Dieu, le respect dû à la parole de Dieu. Voyons quelques versets, il y a des termes clés que Paul reprend dans la suite du texte que nous avons. Chapitre 3 donc. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de vous? Notre lettre, c'est vous. Une lettre écrite en nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre du Christ commise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est la confiance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quelque chose comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, c'est l'esprit qui fait vivre. Or, si le service de la mort, gravé en lettres sur des pierres, s'est trouvé à ce point glorieux que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, voué à l'abolition, comment le service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si en effet le service de la condamnation fut glorieux, combien plus le service de la justice abonde-t-il en gloire? Non, à cet égard, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié en raison de cette gloire extraordinaire. Car si ce qui devait être aboli s'est manifesté dans la gloire, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux? Je m'arrête un instant parce que vous sentez que le texte est très dense et truffé d'arrière-fond d'Ancien Testament qu'il faut élucider un peu pour comprendre. Alors il y a un épisode qui est en arrière-fond, c'est l'épisode que l'on trouve en Exode au chapitre 34, les versets 29 à 35. Qu'est-il dit là? Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les Israélites virent Moïse. Et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Donc, l'allusion est à ce voile que Moïse portait sur le visage pour ne pas effrayer non plus trop les Israélites de ce rayonnement de la gloire de Dieu qu'il avait vu face à face. C'est ça l'épisode qu'il y a en arrière-fond. Mais un jour, la gloire qui rayonnait à ce moment-là sur le visage de Moïse allait s'estomper, être abolie. Ça ne serait pas une gloire éternelle sur son visage. Il y a, de la part de Paul, une allusion à cela. On va y revenir, mais vous avez déjà l'arrière-fond. Un autre arrière-fond, vous l'avez vu, ce sont les paroles écrites là, vers le verset 3, en italique, et puis qui reviennent un peu plus loin. Vous êtes, c'est très beau de la part de Paul de dire à ses interlocuteurs que sa meilleure lettre de recommandation, c'est eux-mêmes. En tant qu'ils lui sont chers, ils sont inscrits dans son cœur. Vous êtes manifestement une lettre de Christ confiée à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, de nouveau, et puis allusion au Sinaï, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors là, ce sont des expressions, on le sait, tirées des prophètes, Jérémie et Ézéchiel. Jérémie 31, qui parle d'une alliance nouvelle. « Voici venir de jour, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Vous vous souvenez que c'est la seule occurrence de l'expression « alliance nouvelle » que l'on trouve dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc l'annonce d'une alliance nouvelle. Et la nouveauté de cette alliance va résider dans le pardon des péchés, mais avant cela aussi, dans son intériorisation. C'est le verset 33 de Jérémie 31. « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » Vous voyez que les termes que Paul utilise en disant « Vous êtes une lettre écrite avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, fait allusion à cela. De même, allusion à Ézéchiel, chapitre 36, versets 25-26. « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, de toutes vos idoles, vos souillures, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Paul dit, c'est une lettre écrite par l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Vous voyez tous ces thèmes, le cœur, l'écriture sur les cœurs, l'esprit, à décliner sur fond, sur arrière-fond prophétique de Jérémie et d'Ézéchiel. Je continue le texte, donc si je reprends alors un instant quand même pour le commenter suffisamment. Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Paul se souvient là de l'expression de Jérémie, d'une nouvelle alliance. Non de la lettre donnée au Sinaï sur les tables de pierre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, c'est l'esprit qui fait vivre. Ça, développera dans d'autres lettres. Si le service de la mort, il ose le qualifier de ses expressions fortes, le service rendu par Moïse, c'était pour une lettre gravée sur des pierres. Mais la lettre laissée à elle-même, s'il n'y a pas l'esprit, elle tue. Donc il ose l'appeler service de la mort, gravé en lettres sur des pierres. C'est trouvé à ce point glorieux, ce ministère de Moïse avait quand même déjà une grande gloire. même si c'était encore écrit simplement, si je puis dire, sur les tables de pierre, pas encore sur les cums, était déjà à ce point glorieux que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, l'allusion à Exode 34, une gloire pourtant vouée à l'abolition, ce ne serait pas éternel. Comment le service de l'Esprit, dont les apôtres sont chargés, bien sûr, sous-entendu, hein, dont le service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? En effet, si le service de la condamnation, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que la loi, si on n'arrive pas à l'observer, elle est la norme qui nous condamne. Nous sommes condamnés parce que nous n'avons pas observé la loi. Il faudra autre chose que simplement l'aspect impératif et de condamnation de la loi. Combien plus le service de la justice. Là, il annonce un thème de la lettre aux Romains. Dieu qui nous justifie par miséricorde. Là où nous sommes incapables de faire ce qu'il demande, bien nous n'en restons pas à la condamnation, nous sommes justifiés. C'est ça qui se profile comme thème. Si en effet le service de la condamnation fut glorieux avec Moïse, combien plus le service de la justice abonde-t-il en gloire? Non, à cet égard, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié. C'est une autre parole tirée de l'Écriture. La gloire de Moïse, qui a été glorifiée, n'était pas encore la pleine gloire qui nous vient en Jésus-Christ. C'est des formules évidemment très, très ramassées, hein, mais ce qui a été glorifié, ben, ce n'était pas encore la vraie gloire. Quoi. En raison de ces gloires extraordinaires, celles qui vont venir avec le Christ. Car si ce qui devait être aboli, un jour, les préceptes secondaires de la loi, s'est manifesté, et la gloire, le rayonnement sur le visage de Moïse devait être aboli, s'est déjà manifesté dans la gloire, combien plus, un argument a fortiori, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux? En possession, je continue le texte, verset 12, en possession d'une telle espérance, nous usons de beaucoup d'assurance, et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui devait être aboli. Qu'il ne voit pas le moment où la gloire partait de son visage et n'en soit pas trop déçu. Mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, lors de la lecture de l'ancienne alliance, tiens, voilà le terme, le répondant, nouvelle alliance, ancienne alliance, mais cette fois-ci entendu au texte de l'ancienne alliance, lors de la lecture de l'ancienne alliance. Et vous voyez qu'on a ici quand même les points d'enracinement de l'usage que nous faisons de ces termes. Lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, ça peut désigner le temps de l'ancienne alliance, mais ça peut désigner aussi les écrits, hein, comme c'est le cas. Hein. Lors de la lecture de l'ancienne alliance, le même voile demeure sans qu'il y ait dévoilement, parce que c'est en Christ qu'il est aboli. C'est en Christ que le voile est pleinement supprimé. Mais jusqu'à ce jour, chaque fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se tourne vers le Seigneur que le voile est enlevé. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Et nous tous, qui le visage dévoilé, réfléchissons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Là, il y a un autre arrière-fond qui joue. C'est l'homme à l'image de Dieu, selon la Genèse. Le visage dévoilé, réfléchissons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire de par le Seigneur. Et on voit qu'il pense à Genèse, parce que 4 versets plus loin, au chapitre 4, le verset 4, 5 versets plus loin, au chapitre 4, verset 4, il dira « Les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir la lumière de l'Évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » Le premier qui est à l'image de Dieu, référence à Genèse, il créa l'homme à son image. Le premier, qui est l'image pleinement transparente et qui n'a pas besoin d'être restauré puisqu'il n'est pas pécheur, mais qui est demeuré transparent de Dieu, c'est le Christ. le Christ qui est à l'image de Dieu, eh bien, si nous adhérons au Christ, nous sommes transformés, nous, en cette même image qui est restaurée en nous, cette image promise dès le récit de la Genèse. Il les créa, hommes et femmes, à son image, et de gloire en gloire. Et on voit bien qu'il est dans Genèse parce qu'il fait allusion au verset de la création, là, au verset 6. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres brillent la lumière est celui qui a brillé dans nos cœurs pour que les illumine la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. En fait, c'est encore le même terme, c'est le visage du Christ, qui est sur le visage du Christ, dit Paul ici. Vous voyez comment il y a des termes clés, visage, image, gloire, mais qui s'appliquent de niveau en niveau à des réalités différentes. On nous parle d'abord du visage de Moïse qui rayonnait. C'est le chapitre 3, le verset 7. Et puis du visage du croyant. C'est le verset 18 du chapitre. Et puis, qui est sur la face du Christ, je vous dis, c'est le mot visage, du visage du Christ. En 4, verset 6. C'était déjà dit en chapitre 2, verset 10. On parle ainsi de l'image aussi à divers niveaux. Au chapitre 3, au verset 18, c'est l'image que nous sommes. Et on peut déjà comprendre en filigrane l'image qu'est le Christ. Et au chapitre 4, au verset 4, c'est clairement la gloire du Christ comme étant en personne l'image parfaite de Dieu. Il y a la gloire qui rayonne d'abord sur le visage de Moïse, que va connaître le croyant, une gloire encore plus grande, vous vous souvenez des a fortiori, selon le verset 18, et une gloire qui est celle du Seigneur Jésus lui-même, au même verset 18. Nous réfléchissons la gloire du Seigneur, qui nous a transformé en cette même image de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. Et enfin, il y a la gloire du Dieu lui-même, bien sûr, non seulement du Christ, Dieu lui-même, l'image de Dieu, en effet, le Dieu qui a dit dans nos cœurs, qui a brillé dans nos cœurs, pour que les illumine la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ. Il sera encore question de la gloire de Dieu au verset 15 du chapitre 4. Vous voyez comment Paul a un vocabulaire et des phrases très denses, mais qui mettent ensemble ces réalités. Ce niveau spirituel. On pourrait dire, seul le Christ est parfaite image de Dieu, et voilà qu'il restaure en nous cette image de Dieu, et la gloire de Dieu, que le Christ tient en plénitude, et l'avait déjà, presque anticipativement, rayonné sur la gloire du visage de Moïse, et nous advient à nous les croyants. Un peu le parcours qu'il nous invite à faire. Et de même, vous aurez remarqué la cohérence des arrière-fonds scripturaires. Donc, cohérence des thèmes, si vous voulez, déclinés à divers niveaux, cohérence des arrière-fonds d'Ancien Testament, puisqu'on a vu qu'étaient convoqués les arrière-fonds de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Exode d'abord, et puis à la fin de Genèse, et comment Paul agence ces réalités-là pour nous faire passer de, par exemple, la promesse générale d'inscrire la loi sur les cœurs et non plus sur les pieds, à ce qui se passe, ce qui se joue pour le cœur du croyant lui-même, celui qui a brillé dans nos cœurs, dit Paul au chapitre 4, le verset 6. Je termine le passage, encore deux, trois versets. Mais ce trésor, nous l'avons dans des vases d'argile pour que cette extraordinaire puissance soit vue comme celle de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes affligés de toutes parts, mais non angoissés, etc. On connaît ce beau passage qui termine par pourtant partout, toujours en notre corps, la mise à mort de Jésus, pour que la vie de Jésus, vous vous souvenez, au début, on avait vu ce binôme vie-mort, voilà qui revient, mais à partir du mystère pascal lui-même, nous portons dans notre corps la mise à mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Voilà, vous pouvez lire un peu plus en détail avec vous ce passage, parce qu'il est assez exemplaire, même s'il est dense et difficile, mais de la manière, la capacité qu'a Paul de puiser son bien dans l'Écriture et puis de réfléchir à la lumière des mots même que l'Écriture lui donne. C'est quand même ça la grande humilité aussi de Paul, c'est qu'il n'avance pas d'autres mots de son propre cru que ceux de l'Écriture, mais qu'il réfléchit en profondeur et fait valoir. Nous terminons en lisant un passage final de la lettre. Si vous avez un texte général, la tome ou quoi, sinon je vais le lire simplement avec vous. Ça sera au chapitre 5, ce sera aux quatre versets du chapitre 5, les versets 17 à 21. Un beau passage sur l'exhortation de Paul à nous laisser réconcilier avec le Christ. Je lis ces versets, donc chapitre 5, versets 17 à 21. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Ce qui est ancien a passé, voici qu'apparu du nouveau. Souvenez-vous, ancienne alliance, nouvelle alliance. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le service de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, en Christ, se réconciliait le monde, ne tenant pas compte aux hommes de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en prions, pour Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Celui qui n'a pas connu de péché, pour nous, Dieu l'a fait péché, le substantif, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Oh, ça passe un peu dense. Une manière d'y voir clair, parfois, c'est de distinguer les personnages, si je puis dire, qui sont en cause. Et dans ce passage très précis, on peut distinguer cinq personnages dans le passage que je viens de vous lire. D'abord, Dieu le Père, qui est la source de l'œuvre salvifique, l'œuvre du salut, par son initiative de pardon. Paul dit « Tout cela vient de Dieu ». Ou encore « C'est bien Dieu qui, dans le Christ, nous réconciliait ». Ou encore « C'est Dieu lui-même qui vous adresse un appel ». Donc, Dieu qui a entendu comme Dieu le Père, qui a l'initiative de ce salut. Deuxième personnage, celui par l'offrande duquel cette grâce de pardon nous rejoint. Et plusieurs expressions, de nouveau, le soulignent lorsque Paul dit « par le Christ, dans le Christ, grâce à lui ». Donc, primo le Père, secondo le Christ, qui nous obtient cette grâce de pardon, de réconciliation. Troisièmement, ceux qui ont la charge apostolique de servir cette œuvre. Là où Paul dit, il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Ou encore, il mettait dans notre bouche la parole de réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Donc les ministres, cette réconciliation, et puis ses bénéficiaires. Tout d'abord, bien sûr, ceux auxquels Paul s'adresse, qui sont désignés par les « vous » de ses interlocuteurs. Chaque fois qu'il dit « vous », eh bien, il s'agit d'eux. Et enfin, l'ensemble des hommes qui sont susceptibles d'accueillir un tel salut. Lorsque Paul dit « si donc quelqu'un est en Christ Jésus, il est une créature nouvelle ». Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde. et pas simplement vous, les Corinthiens, mais le monde avec lui. Donc on voit que c'est très précis. Dieu est la source de la réconciliation. Son Fils en est en quelque sorte l'artisan parmi nous, celui qui nous obtient cette grâce. Il y a ceux qui ont charge de diffuser, de faire connaître, de proposer cette grâce de réconciliation, les ministres. Il y a ceux qui en sont bénéficiaires, au premier chef les destinataires de la lettre, mais plus largement, c'est le monde que Dieu se réconcilie avec lui. Alors le salut est offert, sa réalité est indubitable. Quand Paul dit le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà là. Donc il y a comme une recréation dans l'acte du Christ qui nous réconcilie avec son Père. Donc le salut est offert, mais l'accueil de ce don est comme un fruit qui doit continuer à mûrir. Et ce mûrissement, cette maturation, dépend et du zèle apostolique pour répandre la parole de Dieu. Comment croiraient-ils s'ils n'ont pas entendu parler ? Donc pour que ce fruit se répande, il faut des proclamateurs et de l'ouverture des cœurs à cette parole. D'où la supplique qui est presque poignante de la part de Paul. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Puis, à la fin du passage, un paradoxe exprime l'humiliation à travers laquelle le Christ rejoint le pécheur pour le faire passer en Dieu. C'est la formule très forte qui terminait ces versets que je vous ai lus. Dieu l'a fait pécher, l'a constitué péché pour nous, et qui, dans la version liturgique, visant à faire comprendre le sens de l'expression, est traduit par « Dieu l'a pour nous identifié au péché ». Chez Paul, la formule est très ramassée, mais la traduction liturgique rend bien compte de son sens. « Dieu l'a pour nous identifié au péché ». Et donc c'est au prix de cet abaissement de Christ, assimilé sur la croix au pire des pécheurs, et bien c'est du fond de cet abaissement qu'il nous relève. Voilà quelques aperçus de cette deuxième lettre aux Corinthiens, dont vous sentez bien que pour percevoir la profondeur du ministère apostolique de Paul, surtout là où il est configuré au Christ souffrant et qu'il assume avec courage, c'est une lettre importante. Si vous le voulez, nous allons, puisque nous avons encore un quart d'heure, nous allons aborder la lettre aux Philippiens. Je vous invite à avoir sous les yeux les feuilles de route que je vous ai données aujourd'hui pour entrer dans cette lettre. Je prends la page 34, celle sur laquelle il y a une petite carte géographique. J'ai pointé sur la carte Éphèse, parce qu'il est fort possible que c'est de là que la lettre est écrite. Mais alors aux Philippiens, ça c'est la flèche que j'ai mise en haut de la carte. Vous voyez où se trouve Philippe, en haut de la Macédoine. Sur la page 34, j'ai repris le passage des Actes qui nous rappelle comment Paul a séjourné une première fois à Philippe lors de son second voyage missionnaire. C'était vers l'an 50. En acte 16, prenant la mer à Troas, qui est sur la côte d'Asie mineure, là, le lieu d'embarquement, nous sommes allés à Philippe, ville principale au sens de très importante. C'est la capitale administrative romaine, je crois que c'était Thessalonique. Mais en tout cas, Philippe n'était pas négligeable. Nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Il fait le récit de la conversion d'une certaine Lydie et de sa maisonnée. Puis, il y a l'épisode de Paul et Silas emprisonnés par les magistrats romains. Mais voilà qu'ils chantent les louanges du Seigneur à minuit, ils sont délivrés miraculeusement, ils baptisent même leur geôlier, puis ils sont officiellement libérés, mais priés de quitter la ville, et c'est comme ça qu'ils s'en vont vers Thessalonique. Donc c'est le moment de la fondation de la chrétienté de Corinthe, qui se fait un accueil de la parole, par exemple Lydie et toute sa maisonnée, et puis d'autres, et en même temps des tribulations, comme chaque fois, qui poussent Paul à aller plus loin. Mais Paul gardera une grande reconnaissance pour les Philippiens qui, lorsque, ayant quitté Philippe, vont descendre de ville en ville, continueront à distance à le soutenir de leurs prières et aussi de quoi subsister matériellement. Il sera toujours très reconnaissant. C'est le deuxième paragraphe sur votre feuille. Les Philippiens ont subvenu aux besoins de Paul dans la suite de ses voyages, puis plus tard encore. À Thessalonique même, par deux fois, vous m'avez envoyé de quoi subvenir à mes besoins. Puis lorsque je suis sorti de Macédoine, aucune église ne m'assista en m'ouvrant un compte de droit et avoir vos fuites les seules. Autrement dit, ils lui ont ouvert un compte de crédit pour qu'il puisse s'en sortir. Venu de Macédoine, ils ont pourvu à mes besoins. Et au chapitre 2, il rappellera Épaphrodite que vous avez délégué près de moi pour subvenir à mes besoins. Donc, on voit un des motifs, ce n'est pas le seul, mais de l'attachement de Paul à la communauté de Philippe. Il y a aussi une dimension de lettre de captivité dans cette lettre. De fait, il parle de ses liens, comme on peut le voir en Colossiens, en Éphésiens, 2e à Timothée. Vous qui, dans mes liens, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez tous part à ma grâce. C'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères à qui mes liens ont donné confiance dans le Seigneur, vu le courage avec lequel Paul les assume, sous-entendu, redouble de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Tandis que d'autres, c'est par un esprit de dispute qu'ils annoncent le Christ pour des motifs qui ne sont pas purs, pensant bien susciter de l'affliction à mes liens, c'est-à-dire me chagriner alors que je suis réduit un petit peu à l'inactivité là en prison, et que eux se déploient, mais répandent l'évangile pour des motifs, dit Paul, qui ne sont pas toujours purs. En tout cas, retenons la mention de ces liens. C'est sans doute lors d'un temps de captivité à Éphèse, dans ce cas vers 55-56, que Paul aurait écrit alors la lettre aux Philippiens, puisque de fait, dans Éphésiens, il signale plusieurs fois qu'il est là aussi dans les liens. Et c'est peut-être lors de cette captivité-là à Éphèse, donc dès avant Césarée, dès avant Rome, eh bien, qu'il écrit sa lettre. Alors on a objecté, oui, mais ça doit être les liens de Rome, parce qu'il est question du prétoire, il est question de ceux de la maison de César. Eh bien, ce n'est pas des arguments inébranlables. C'est ce que j'ai mis en haut de la page 35. Il est devenu notoire dans tout le prétoire que c'est pour Christ que je suis dans les liens, dit-il. En fait, il y avait une garde prétorienne à Éphèse même. Donc l'expression pourrait se comprendre en ce sens-là. Ou bien lorsqu'il dit « Tous les saints vous saluent, spécialement ceux de la maison de César, qui peuvent être des esclaves affranchis de la maison de César et qui de fait étaient nombreux à Éphèse. » Donc si vous voulez, les contre-arguments pour tenir mordicus que c'est de Rome qu'il aurait écrit cela ne sont pas absolus. On peut défendre valablement l'hypothèse de Éphèse, c'est ce que j'ai rappelé dans divers passages tirés de la première et de la deuxième aux Corinthiens, qui sont écrits quand même plutôt avant Philippiens. Eh bien, on voit qu'il y a allusion à des tribulations à Éphèse. Paul dit son espoir d'envoyer Timothée et puis de repasser par chez les Philippiens, ce qui est sans doute moins évident de Rome. Je n'approfondis pas, vous avez le texte des actes qui teste cela. Et puis il y a des éléments de proximité avec la lettre de Jacques, qui est sans doute de cette période-là, et qui confirmerait que c'est vers l'an 56 que la lettre aux Philippiens est écrite. Et puis il y a aussi un élément, c'est qu'on voit un élément de continuité avec des lettres qui ont été écrites antérieurement, que nous avons lues, la première, la deuxième aux Thessaloniciens et la première aux Corinthiens, à savoir le fameux thème du jour du Seigneur. Paul continue à le décliner dans la lettre aux Philippiens, alors qu'il n'en parlera plus guère aux Galates, aux Romains. Hein? En Philippiens 1, celui qui a commencé cette œuvre en vous en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Etc. Je vous ai repris 5 mentions de ce jour du Seigneur qui est proche et que nous attendons. Bref, dans cette hypothèse, Paul aurait fondé l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire. Il aurait écrit aux Philippiens à partir d'Éphèse, vers 55-56, dans un contexte plus proche de ces lettres que je viens de rappeler, à 2 Thessaloniciens et en Corinthiens, que le contexte de Colossiens et Éphésiens plus tardive. Et puis il aurait revu les Philippiens dans la suite de ce troisième voyage, quand d'Éphèse, il est repassé en Grèce macédoine. Voilà pour un peu resituer le contexte, l'époque et le lieu de rédaction plausible de cette lettre aux Philippiens. Alors, une idée de la suite des sujets qui sont abordés dans la lettre. Il y a, donc vous avez cette proposition de plan sur la page 36 que je vous avais donnée. Au départ, comme d'habitude, une adresse et une salutation initiale, suivie, comme très souvent, d'une action de grâce associée à la prière. Puis on a le corps de la lettre, avec des nouvelles personnelles de Paul, qui relate justement des allusions à sa captivité, ses épreuves, son désintéressement, son assurance. Puis il prodigue des exhortations et des encouragements aux Philippiens. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a, dans un appel à l'humilité, dont les abaissements volontaires de Jésus nous donnent le plus magnifique exemple, dit Hostie, qu'on a ce qu'on appelle l'hymne aux Philippiens. C'est dans ce chapitre 2. C'est dans un moment où il est en train d'exhorter les Philippiens, notamment à des attitudes d'humilité, qu'il entend leur montrer en exemple l'humilité même du Christ, qui, étant à l'égal de Dieu, ne revendiqua, etc., mais s'abaissa jusqu'à la mort, la mort de la croix. On va relire ce beau passage qui est bien connu comme l'hymne aux Philippiens, où l'humilité du Christ est déclinée, de son abaissement jusqu'à la mort de la croix, et puis c'est pourquoi Dieu l'a élevé et l'a exalté. On a le mystère de son relèvement, sa résurrection qui se profile. Et vous voyez que ça intervient dans un passage marqué par une série d'exhortations et d'encouragements. Puis il donne des nouvelles de Timothée et d'Épaphrodite. Puis il y a d'autres exhortations de Paul, mais en œuvre. Si on regarde le plan proposé par François Vougas, c'est la partie inférieure de la page. Les sous-titres qu'il donne sont toujours intéressants. La joie de l'apôtre, on va voir que le thème de la joie est très marqué dans la lettre aux Philippiens. La joie de l'apôtre et des Philippiens dans l'œuvre de Dieu, à partir des nouvelles qu'il donne et à partir de demandes qu'il formule. Il va non seulement prendre acte de la joie qui a déjà cours, mais inviter à la joie. On va le voir. Et puis une deuxième partie que Vouga intitule La compréhension apostolique de l'existence comme modèle pour les croyants. C'est-à-dire que Paul ose se donner en exemple, en tant qu'il essaye de suivre le Christ lui-même, bien sûr, et pour être un modèle pour tous les croyants. Et dans cette partie-là, on aura au passage, au chapitre 3, un petit condensé de doctrine du salut par la justice que Dieu confère et non pas par nos seuls mérites. Et ça prépare directement des thèmes importants de la lettre aux Galates et aux Romains. La fois prochaine, nous lirons, si vous voulez, plus en détail ce qu'on appelle, situé dans son contexte, la belle hymne de Paul aux Philippiens. Et puis, nous lirons aussi ce passage. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, je vais simplement lire une fois l'hymne aux Philippiens. Vous avez le texte disposé de manière à en faire saisir les articulations à la page 38. Je remonte un petit peu plus haut. Pardon, à la page 37, excusez-moi. 37. Au début du chapitre 2, si donc il y a quelque consolation, c'est toujours le terme de l'encouragement, la paraclèse, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque réconfort d'amour, quelque communion d'esprit, quelque tendresse et compassion, alors mettez un comble à ma joie, afin que vous pensiez la même chose, que vous ayez le même amour, que vous soyez littéralement ensemble d'âmes, unanime, une même âme, pensant la même chose. Et le verbe penser ici désigne pas une réflexion, mais une attitude d'esprit, une disposition. Donc que vous ayez la même disposition, le même amour, unanimité. Au contraire, rien selon la dispute, ni rien qui soit selon une vie de gloire, une gloire vaine. Mais au contraire, par pensée d'abaissement, c'est ce qu'on rend par abaissement, humilité, par pensée d'abaissement, estimez les autres comme étant au-dessus de vous-même. N'allez pas chercher chacun les choses de soi-même, mais pensez aux choses des autres. Bref, pensez entre vous, mais de vous pensez au sens ayez disposition entre vous, que aussi en Christ Jésus. C'est-à-dire, cette humilité-là, eh bien, c'est la disposition du Christ Jésus. Ça, c'est le verset charnière qui fait le passage entre l'exhortation à se montrer humble, unanime, ne cherchant pas sa propre gloire, mais celle des autres, eh bien, ça fait le lien entre cette humilité-là, demandée aux Philippiens, et l'exemple d'humilité que donne Jésus. Quel est-il ? Lui qui, en forme de Dieu subsistant, eh bien, n'estima pas comme une usurpation d'être égal à Dieu. Mais au contraire, lui-même, il se vida, prenant forme d'esclave, devenu en similitude d'homme, semblable aux hommes, et par son aspect trouvé comme un homme. Il s'abaissa lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a surélevé, lui gratifia le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou plie sur cieux, sur terre et sous terre, et que toute langue confesse que Seigneur est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors vous sentez de l'hymne, je termine par là, le mouvement, il subsistait en forme de Dieu, mais il n'a pas voulu rester dans son ciel simplement, estimant être égal à Dieu. Mais lui-même, il s'est vidé, abaissé, et son premier abaissement, c'est l'incarnation. Prenant forme d'esclave, devenu en similitude d'homme, et de fait trouvé à son aspect comme un homme. Il s'est fait homme, premier abaissement. Mais il s'abaissa encore plus, en devenant obéissant et jusqu'à la mort. Et encore plus, pas n'importe quelle mort, il n'est pas mort de mort naturelle. Mort de la croix. On descend les degrés de l'humilité que consent le Fils de Dieu. Et puis on amorce le mouvement de remontée. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alors quel est ce nom ? On pourrait croire à une première lecture superficielle, le nom de Jésus. Il a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou plie dans les cieux, sur la terre, mais que toute langue confesse, et c'est là le nom complet. Le nom en question, c'est Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça le nom qui lui est conféré et qui est au-dessus de tout nom, puisque Jésus est tout à fait respectable, et Jésus, c'est son nom, son prénom humain. À un moment donné, c'est bien sûr qu'on sait une signification biblique, Dieu sauve, mais le nom ici glorifié, magnifié, c'est l'expression complète. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça nous donne, on y reviendra, on verra d'autres passages aussi de cette belle lettre la fois prochaine. Merci de votre attention, de votre patience à avoir accepté ce délai de démarrage initial de cette retransmission que j'arrête maintenant.